21h17 ce soir, si vous venez de vous joindre à nous, évidemment, on se sert de ce jour du souvenir pour rendre hommage aux sportifs qui font preuve de détermination, qui font preuve d'effort, qui font preuve d'engagement. Souvent, on va dire que ce sont des guerriers. Puis évidemment, il n'y a pas de vraie comparaison parce qu'un soldat, un militaire qui est à la guerre versus un sportif, c'est pas la même chose. Mais par contre, on peut reconnaître la même mentalité. Cette mentalité où tu es prêt à mettre une cause plus grande que toi de l'avant. Et ça, c'est ce que je pense. Plusieurs d'entre nous admirons. On aime voir ces gens qui se sacrifient, les gens qui vont faire passer l'équipe avant le résultat personnel. Et je sais que ce soir, quand je vous demande, tout sport confondu, qui représente le plus l'image du guerrier, détermination, effort et engagement, il y a plein de noms qui vous viennent en tête. Il y a plein de noms qui vous viennent en tête. Un peu plus tôt, à l'émission de Mario Landlois, il y avait les gars de la Poche Bleue qui étaient là. Maxime Lapierre, Guillaume Latendresse. Et on parlait des mentors, ceux qui, chez le Canadien, ont aidé ces gars-là. Ceux, chez le Canadien, ont montré la voie pour dire comment ça marche dans la vie et comment tu fonctionnes quand tu es un joueur du Canadien de Montréal. Je vous laisse écouter Maxime Lapierre qui parle de Steve Bégin. Écoutez bien.
Bon, on vient de le mentionner, Mario, Steve Bégin. Ce gars-là, juste la façon qu'il pratiquait, de voir un gars qui arrivait à l'aréna, qui avait de la misère à marcher, mais quand il embarquait sa glace, il donnait son 100%, il bloquait un lancer, il rampait jusqu'au banc, tu te dis, bon, mais la prochaine, il va peut-être se tasser un petit peu. Non, il rembarque puis il essaie de le bloquer avec son visage. T'sais, tu comprends le genre, là? C'est juste ouais. De voir ça, pour moi, c'est un respect. C'est le respect de l'organisation, c'est le respect de ton employeur, c'est le respect de tes coéquipiers.
Steve Bégin est avec nous. Salut, Steve.
Salut. Ben écoute, je suis content d'avoir entendu ça. Mais je voudrais juste qu'on, avant de partir, là, je suis content que tu aies fait le parallèle avec, tu sais, on a un jour du souvenir, puis dire que c'était pas la même chose que pour un gars qui est allé à la guerre. Parce que, écoute, tantôt, quand tu me fais la demande, je me sentais comme mal. Je dis, écoute, moi, je bloquais des lancers. Puis oui, j'étais courageux de ce côté-là. J'étais courageux parce que le pire qui pouvait m'arriver, c'est que je me casse un membre ou que je fasse une commotion, que j'aille un bleu le lendemain ou que je me pète le nez. Eux autres, c'est leur vie qui met en danger et tout. Donc, tu sais, j'étais là, oh my God, c'est-tu vraiment ça qui va se passer? Mais merci d'avoir fait le parallèle. Merci d'avoir justifié un petit peu parler un petit peu du gros de la chose, mais de la différence, oui, c'est ça. Je me sens un petit peu moins mal.
OK. Mais Steve, il y a quelque chose, à mon avis, qui vous rejoint dans la personnalité. Il y a le côté solennel. Moi, il y a un côté solennel que je trouve. On dirait qu'on accepte un défi quand on est sportif, quand on est comme toi, et Guillaume et Maxime en parlaient. Un leader silencieux, mais par ses gestes sur la patinoire. Raconte-nous, ça vient de où, ça, ce sentiment-là de mettre l'équipe en avant, de défoncer comme ça?
Bien, écoute, ça a toujours été comme ça pour moi. J'ai été élevé comme ça. Tu sais, vous savez, je viens d'une famille très pauvre. J'ai été élevé par mon père. J'ai été élevé un petit peu à la dure. Mon père voulait que je me débrouille seul. Et, tu sais, je vais vous conter une petite histoire que c'est anodin, là, mais juste pour deux, je peux même vous en compter deux, là, juste pour vous dire comment j'étais un leader, comment je prenais soin, puis faire un parallèle avec la guerre. Je pense que je devais écouter trop des films de guerre quand j'étais jeune, mais on dit toujours, dans ces familles, ils disent toujours, on laisse jamais un guerrier, un soldat en arrière. Puis, je me souviens, un des premiers gros coups que j'ai fait, je n'étais pas un ange quand j'étais jeune, on va se le dire, je marchais, puis on s'en allait vers le parc, puis dans mon quartier, c'est un quartier pauvre, on traversait un secteur où il y avait des buildings, des appartements qui venaient d'être construits. Puis le building, l'appartement qui était au niveau du sol, qui était dans la terre, autrement dit, là, donc la fenêtre de leur chambre et du salon était à peu près peut-être à 15 pouces ou 10 pouces du sol. La fenêtre était ouverte, puis juste à côté, il y avait un boyau d'arrosage. Puis moi, j'ai eu une brillante idée de prendre le boyau avec mon chum et de le rentrer à l'intérieur. Mmh. Puis là, on se met à marcher un petit peu tranquillement. Puis là, le gars qui avait peut-être 25-30 ans, il sort, puis il venait courir après nous autres, puis il criait après nous autres. Moi, j'étais quelqu'un qui était athlétique quand même. Là, ça, j'avais 9 ans, là. Puis je courais, mais mon chum, c'était pas un sportif, là, c'était un petit peu, tu sais, il était maladroit, puis il courait, puis il regardait en arrière, puis je te mens pas, là, il est rentré la face première dans le poteau, puis il est tombé à terre. Moi, ma réaction à 9 ans, là, puis je sais pas de menterie, là, c'est vraiment sérieux ce que je te dis là. J'ai arrêté, j'ai ramassé des roches par terre, je me suis avancé vers le gars, puis j'ai dit de lâcher mon ami. Puis je me suis même lancé des roches pour qu'il lâche mon ami. Écoute, j'avais 9 ans, là. Juste te dire comment j'étais un leader, puis j'étais quelqu'un, tu sais, j'ai grandi de cette façon-là, j'ai été élevé comme ça. Puis l'autre histoire vite fait, là, c'est on avait 12 ans. Puis, je me sens quasiment mal de vous dire que c'est encore moi qui ai eu cette idée-là. Là. Puis, on était, je pense que c'était au mois d'avril, c'est la fin de la saison de hockey. Tu sais, les parties y arrivent. Puis, le dimanche, c'était notre party. Puis, samedi, on s'est rejoint à peu près 4-5 gars de mon équipe Pee-Wee 2A. Puis, la veille, puis on marche devant une maison qui a le sapin en avant. Puis, il y a encore les lumières de Noël. Je pense que c'est passé les lumières de Noël l'année-là. Moi, j'ai dit, hey, on ramasse les globes, puis encore là, j'étais encore gêné de dire que c'est moi qui ai eu cette idée-là, là, mais j'étais pas un ange quand j'étais là, tu sais, j'étais super correct, mais j'aimais savoir du fun. J'ai dit, on va ramasser les petits globes, puis on va aller les mettre sur le boulevard là-bas dans la rue, puis le monde, ils vont passer dessus, ils vont penser qu'ils font des flats, on va trouver ça bien drôle. Mm-hmm. Puis, on s'en va avec ces lumières-là, puis. On s'en va les splitter au dépanneur sur le coin de la rue qui était sur le coin de la rue de la maison qu'on avait été pris les globes. Puis le monsieur est venu en auto, en sournois, il a débarqué, puis il m'a ramassé moi. Ça veut dire qu'ils ont appelé la police. La police est venue me chercher, j'ai 12 ans. Là. Fait que je m'en vais au poste, puis il me dit ils sont où tes chums avec qui t'étais? Je dis ah, j'étais tout seul. Le monsieur qui t'a ramassé, il a dit qu'il y avait d'autres gars. On va faire le tour, on va passer par cette rue-là. Puis il voit, il y avait 4 gars au bout. Il a dit c'est eux autres, tes amis. Non, c'est pas eux autres, je les connais pas. J'avais 12 ans, mais j'étais après dire à la police que je les connaissais pas. Finalement, ils ont arrêté. Ils ont dit, hey, votre chum, il dit que c'était vous autres qui étiez avec. Ils ont embarqué dans l'auto. Puis dans l'auto, la police a dit, les gars, vous n'auriez rien dit, là. Votre chum, il n'avait jamais rien dit. Il n'avait jamais dit que c'était vous qui étiez avec lui. Tu sais, c'était comme inné en moi. Je suis né, j'étais un leader. Plus jeune, je parlais beaucoup. Et oui, dans la Ligue nationale, j'étais comme un leader silencieux. Moi, c'était plus avec les actes. Que je portais autrement dit que je portais ma parole. Donc c'était vous voyez ce que je fais, donc faites la même chose. Je bloquais des lancers, je ne chialais jamais, je me faisais blesser. Tu sais, moi, quand on me patinait après une pratique, je le faisais avec plaisir, je disais pas un mot. Donc c'était plus ce côté-là, eux autres qui parlaient. Puis encore une fois, je les remercie beaucoup qui ont aimé mon nom. C'est un honneur, c'est super.
On s'entretient avec Steve Bégin parce que ce soir, on va se parler tout sport confondu qui représente le plus l'image du guerrier. Puis encore là, je le précise, c'est l'image par la détermination, par l'effort, par l'engagement. Steve, quand il y a des gars comme toi dans un milieu sportif qui se défoncent, qui chiolent pas, qui mangent leur pain noir, qui font des sacrifices de leur physique, il y en a qui n'aiment pas ça non plus. Comment on arrive à établir un leadership comme ça? Quand tu sais qu'il y en a qui n'aiment pas ça, quand il y a quelqu'un d'autre qui travaille trop fort, là.
Ben, je vais donner un exemple. Souvent, dans les pratiques, ces joueurs-là qui n'aiment pas trop ça, ils vont te le dire. Ils vont dire, là, on veut pas de héros ici, là. Suis la parade, suis tout le monde. Puis, tu sais, moi, je répondais toujours, OK, les boys, ils disent, vous autres, vous êtes talentueux. Moi, c'est ce qui m'a apporté ici. Là. Moi, c'est ça mon gagne-pain, c'est de travailler, d'être plus travaillé. Puis c'est pour ça que je suis ici. Donc, à un moment donné, il faut que je fasse ma part. Puis c'est ça ma part. Donc, je peux pas chialer. Vous pouvez pas chialer parce que je vais toujours en donner plus. Puis à un moment donné, c'était OK, c'était correct. Là. Mais il y en a que non, ils aiment pas ça quand il y en a qui sont trop travaillants. Eux autres sont talentueux. Puis ils se fient juste à leur talent. Mais d'un autre côté, ça les rattrape toujours. Mais c'est sûr qu'un gars comme moi, un gars qui est travaillant puis qui a toujours survécu à cause de ça, c'est toujours frustrant de voir quelqu'un qui va pas donner son maximum, qui vont se fier juste sur leur talent. Je m'en souviens lorsque j'étais une de mes premières années à Calgary, il y avait un premier choix, je pense. Son nom, c'était Oleg Sapukin. Puis, on s'est ramassé, moi, dans mes deux années que j'ai passées au début de carrière à Calgary, que j'étais dans la Ligue nationale toute l'année, là, les deux premières années. Tu sais, je jouais pas souvent, puis je jouais peut-être 50 parties par année. Les autres, j'étais dans les estrades, tu sais, j'étais en un an. Puis il y en a un qui était pareil quand il est arrivé, c'est Alex Atkin. Fait que moi, quand je jouais pas, on avait un plan d'entraînement, puis tu devais t'entraîner, faire un bike ride, puis après ça, un workout. Puis lui, il était devant la télé, puis il regardait la TV, puis j'étais comme frustré de ça, puis j'y ai donné de la merde. C'est en bon québécois, j'y ai donné de la merde, puis il a pas aimé ça, puis il s'est mis à dire, à parler en russe, puis il est parti. Tu sais, c'est des joueurs de même, tu viens comme ça t'enrage, puis tu peux pas croire que c'est une job, tu sais, oui, tu joues par plaisir, mais d'un autre côté, c'est une job, c'est ton devoir de te donner au maximum, puis pas seulement pour toi, pas seulement pour ton équipe, mais également pour les partisans, puis tout le monde, puis ceux qui t'ont signé, ceux qui t'ont engagé à venir ici. Donc, moi, c'est pour ça que je prenais ça au sérieux, puis j'étais content et d'être là, j'étais chanceux, je me trouvais chanceux de jouer dans le national, donc pour moi, c'était comme naturel, là.
Steve Bégin, est-ce que tu as déjà été tanné d'être ce guerrier-là?
Ah, pas pantoute, puis là, tu sais, je vais vous dire de quoi j'ai peut-être jamais dit, puis je commence à dire, mais je pense que je me suis fié beaucoup là-dessus. J'ai toujours voulu tellement être le gars qui travaillait le plus. J'avais passé à cause de ça. J'avais atteint des choses que jamais personne n'aurait pensé. Tu sais, mettons, j'ai fait Équipe Québec. Après ça, personne ne m'avait vu là, dans le Midget 3A, à faire Équipe Québec, parce que c'était tous des gars juniors. Puis moi, j'étais Midget 3A. Après ça, j'ai été repêché deuxième ronde dans le junior, de deuxième à deuxième. J'ai joué Équipe Canada junior. Qui c'est qui m'aurait vu là? J'ai été sélectionné deuxième ronde, 40e au total de la Ligue nationale, et j'ai fait la Ligue nationale à 19 ans. Personne ne m'avait vu là, puis moi, c'est pourquoi j'avais toujours passé devant tout le monde comme ça, parce que j'étais quelqu'un qui ne disait pas un Christine mot, mais qui se donnait à 100%. Tu sais, je travaillais, j'en demandais toujours, puis je chialais pas, mais je me suis, tu sais, dans ma tête, je voulais tellement toujours être celui qui travaillait le plus, que j'ai peut-être manqué d'un autre côté pour les skills, puis... après une pratique, moi là, je patinais, je voulais travailler mon cardio, je voulais travailler mon endurance, au lieu d'avoir quelqu'un qui était là avec moi, tu sais, qui me guide un petit peu, disant non, tu sais, on fait des skills aujourd'hui, t'as besoin de ça, on va, tu sais, ce côté-là, je pense que ça, peut-être que ça me tue un petit peu plus, sauf les blessures naturellement, là, mais j'aurais aimé ça avoir quelqu'un comme dans ce ici, là, les jeunes sont chanceux parce qu'ils ont tout pour eux autres, ils ont les skill coach, ils ont les trainers personnels, ils ont du monde pour la nutrition, ils sont vraiment bien entourés, puis tu sais, je suis content pour eux autres, puis nous, on était certainement mieux entourés que les, tu sais, je vais dire, dans le temps, mettons, puis la fleur, puis avant ça, c'est sûr et certain, ça évolue toujours, mais c'est peut-être ce côté-là que j'ai manqué un petit peu, puis je suis pas gênant à le dire, puis le pire dans tout ça, c'est que j'ai fait la Ligue nationale, j'ai atteint mon rêve, je referais la même chose parce que je suis fier de la façon que j'ai rentré là, de la façon que j'étais travaillant, de la façon que le monde me reconnaisse. Je suis pas gêné de ça.
Steve Bégin, on te connaît, t'es un gars honnête sur la patinoire, t'es un gars solennel. Moi, je pense, je dis solennel parce que la façon dont tu nous en parles et la façon dont t'as vu jouer de l'extérieur, c'est ce que ça semble. Tu as été coach également, tu as été dans le junior majeur. Avec cette nouvelle génération-là, comment un gars comme toi arrive à composer avec des jeunes qui, parfois, ont pas toujours les mêmes intentions que tu pouvais avoir à la même époque?
Tu as remarqué que j'ai duré juste un an aussi. Hein? Non, blague à part, sérieusement, j'ai été bien entouré là-bas pour ma première expérience avec Steve Hartley, qui est un entraîneur formidable, qui est super bon avec les jeunes, puis j'ai beaucoup appris avec lui. On m'avait averti parce que en 2014, j'avais fait un petit stunt dans les playoffs, dans les séries avec les Foreurs de Val-d'Or, l'équipe que j'ai joué mon junior, puis que je tiens beaucoup à cœur. Et puis, la première chose qu'on me dit, je me souviens toujours, Alex Groslot, qui était le directeur général, Groslot, il me dit, Steve, là, ces jeunes-là, là, c'est pas comme toi dans le temps. Là. Faut que tu mettes tes gants blancs. Tu peux pas arriver et leur donner de la tu sais, leur parler raide pour leur dire qu'ils ont fait une erreur. Faut vraiment que tu dis, OK, là, présentement, ce que tu as fait, c'est peut-être pas la meilleure chose. Tu sais, faut que tu sois diplomate dans ce que tu leur dis. Puis sois pas trop direct parce que ça fonctionnera pas. Puis ils vont s'effondrer. Puis quand j'ai coaché à Drummondville il y a deux ans, j'ai trouvé que c'était encore pire. Les jeunes, il faut vraiment que sois diplomate avec eux, tu mettes les gants blancs, que tu les encourages. Ils ont toujours besoin d'encouragement, ils ont toujours besoin de se faire rappeler qu'ils doivent travailler, qu'ils doivent payer le prix, qu'ils doivent... ça, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment dur, puis je trouvais pas que c'était bon pour le hockey, puis écoute, le talent était là, les joueurs sont tous talentueux, puis c'est l'évolution du hockey, c'est ça aujourd'hui, là.
On s'entretient avec Steve Bégin. Steve, je t'entends, puis encore là, on fait référence parce que c'est le jour du souvenir, puis je le répète encore une fois, c'est pas la même chose, mais on fait référence souvent à un guerrier. Moi, j'ai le goût de savoir, un guerrier pas de guerre maintenant, ça fait quoi? Comment toi, tu composes avec ça? Qu'est-ce que toi, t'es intrinsèquement avec aujourd'hui où la compétition n'est plus là nécessairement? Comment tu te places dans cette situation-là aujourd'hui?
Vous savez, j'ai deux filles. Donc, j'ai dû gérer mes émotions, gérer un petit peu de la manière, de la façon d'aborder mes filles, parce qu'au début, ils ont commencé. C'est pas moi qui les ai initiés au hockey, mais je m'en souviens, j'étais en fin de carrière. C'est la saison que j'étais à Abbotsford, puis j'étais blessé. Je pouvais pas jouer, mais j'attendais de savoir si je pouvais recommencer à jouer. Finalement, ma carrière s'est terminée. Puis ma plus vieille, elle m'a téléphoné parce qu'il était ici à Candiac, puis il m'a appelé à Abbotsford, elle m'a dit « Hey, papa, j'aimerais ça jouer au hockey, est-ce que je peux jouer au hockey, peux-tu m'acheter un équipement? » J'ai dit « Regarde, qu'est-ce qu'on va faire? » Il y avait plusieurs personnes, parce qu'à l'école, c'était un genre de primaire sport-études. Il dit « Emprunte l'équipement à quelqu'un, fais 2-3 pratiques, puis dis-moi si t'aimes ça. » Fait qu'elle me rappelle à la fin de la semaine, elle me dit « Oui, j'ai super adoré ça, je veux jouer. » On commande un équipement de hockey. Ma plus jeune, la même affaire. Une semaine après, elle voulait faire la même chose. J'ai dit, c'est bon, pas de problème, fais la même chose, le même exercice. Elle m'a rappelé après, elle dit, je veux jouer. C'est bon, on commande un équipement de hockey. Puis on commençait à jouer avec l'école. L'année suivante, ma plus jeune décide de jouer au niveau dans l'hockey organisé ici à Candiac. Puis, durant le camp, tu sais, c'est tous les jeunes en même temps pour les placer, les diviser. Il y avait besoin d'entraîneurs, puis ils m'ont demandé si je voulais y aller. Je disais, OK, il n'y a aucun problème, je vais le faire, mais je veux pas être coach. Moi, je veux voir mes enfants, je veux voir ma fille jouer, je veux en profiter, je veux avoir ce plaisir-là. Puis, j'ai fait toutes les fois qu'il fallait être sans glace, je pense que c'était 2-3 fins de semaine, puis après ça, ils faisaient les équipes, puis ils appelaient et disaient dans quelle équipe était. Puis j'ai reçu un appel que c'était le coach qui allait être le coach de ma fille cette année-là. Il dit ouais, Steve, ça va bien, là. Je dis ouais, comment ça me parlait, là, à un moment donné, j'ai dit, écoute, dis-moi ce que tu as à me dire. Je sais que tu as quelque chose à me demander, demande-moi là, s'il vous plaît. C'est cut to the chase, là, on va finir ça direct là. Il dit ouais, j'aimerais ça que tu sois mon assistant-entraîneur. Je dis, non, je veux pas, moi, je veux pas faire ça. Non, je veux en profiter. Je veux regarder ma petite fille d'en haut. Je veux pas être en arrière du banc. Puis, il dit, oh, non, ce serait le fun. Ce serait un bel exemple pour les enfants. Je dis, arrête, là, il n'y a aucune idée, je suis qui, là. Ils sont bien trop jeunes. Il dit, ah, non, tu vois, ils vont t'écouter. Puis, là, ma fille était à côté. Là, je dis, Mélia, tu veux-tu que c'est ton entraîneur de l'équipe tu vas être cette année? Est-ce qu'il veut savoir si tu veux que je sois assistant-entraîneur? Puis là, elle a dit, oui, t'es super content. Puis, tu sais, ce que j'ai vu dans tes yeux, je dis, ah, Kim, ben écoute, j'ai pas le choix. Elle a dit oui. Le boss a parlé. J'accepte. Mais je lui ai dit, je prends aucune décision, là. Moi, l'important, c'est que tout le monde joue égal. Il n'y a pas de son novice, là. J'ai dit, moi, je veux que ça soit du plaisir. Mais demande-moi rien. Moi, je suis là. Par ta rue, j'ouvre la porte. C'est tout. Il dit, hey, pas de trop. Mais, tu sais, quand même, je me retournais toujours vers ma petite fille, puis je lui disais, Mélia, la seule chose que je te demande, c'est donne-toi au maximum. Et du fun, mais, tu sais, laisse-toi, traîne-toi pas les pieds, lance-toi pas par terre, tombe par terre, relève-toi, travaille, pousse, puis donne tout ce que tu peux à toutes les fois. Puis à chaque fois, tu sais, qu'elle manquait ce côté-là, là, j'allais toujours la voir. Mélia, s'il te plaît, tout ce que je te demande, c'est que tu donnes, travaille fort. C'est comme ça que tu vas être fier de toi. Puis là, à un moment donné, je me suis comme rendu compte que là, peut-être que j'en demandais trop, puis je dis, non, je peux pas demander ça. Puis comme j'ai pris un ou deux pas de recul, puis je me suis rendu compte moi-même que je pouvais, tu sais, je voulais pas faire ça, c'est pas ça que je voulais faire. Puis c'est ça, tu sais, il a fallu que je prenne un pas de recul sur ce côté-là, mais dans la maison, les filles savent très bien que moi, tout ce que je leur demande, c'est qu'ils aient ça au maximum. S'ils entreprennent quelque chose, qu'ils se donnent au maximum à 100%, puis qu'ils essayent au bout, là. Je veux pas qu'ils lâchent, je veux pas qu'ils fassent les choses à moitié. Pour moi, c'est important en tant que parent. Tu sais, j'ai été élevé comme ça, puis c'est tout ce que je peux leur dire. S'ils veulent aller loin, atteindre leur rêve, c'est qu'ils se donnent, puis qu'ils travaillent, puis pour qu'ils soient fiers d'eux autres. Puis je pense que là, c'est comme là, j'en ai une de 16 ans, j'ai l'autre de 13 ans, celle de 13 ans, ma plus jeune que j'ai coachée, je tenais à novice. C'est un petit peu plus de travail, mais tu sais, ça s'en vient bien, là, tu sais, parce que là, présentement, elle a des problèmes, de découvert qu'elle a des problèmes de dyslexie. Mm-hmm. Donc, faut qu'on travaille encore plus fort. Tu sais, c'est dur, puis en plus, c'est ainsi, là, pour les enfants, là, c'est tellement pas facile, ouais. Donc, on met beaucoup d'efforts, mais on travaille fort, puis on est fiers. Tu sais, on est fiers de nos enfants, peu importe, là. On est toujours fiers, puis moi, c'est juste ça. J'ai dit, tu sais, tu peux pas être bonne en quelque chose ou d'être moins talentueuse que les autres, mais aussitôt que tu vas travailler plus fort que les autres, on va toujours être plus fort. Tu vas te donner au maximum toi, là, sans te comparer aux autres. Tu vas donner tout ce que tu as, là. On va toujours être fiers de vous autres.
Ben Steve, ça t'honore énormément, puis je veux juste te dire un gros merci d'avoir accepté de nous parler ce soir dans cette soirée où on parle de l'image du guerrier, puis à chaque fois qu'on fait une tribune téléphonique, quand on parle de guerrier, de gars qui se donnent, tout le monde arrive avec le nom de Steve Bégin, puis je pense que ça t'honore énormément. Steve, je te dis merci, puis je te souhaite une bonne soirée. Merci d'avoir été là.
Merci d'avoir pris le temps. C'était un plaisir pour moi. Merci beaucoup. Bonne soirée.
Merci, bye au revoir. Bye. Steve Bégin était avec nous. On s'arrête quelques instants au retour. On met la table à notre soirée de conversation. Soyez prêts ce soir. On parlait de guerriers. Pas des soldats, mais tu sais, dans le sport, il y en a qui se donnent pour vrai. Steve Bégin en était un. Je veux vous entendre là-dessus au retour. Restez là.